Et cette semaine, on discute avec notre géopolitologue maison des retombées géopolitiques des éliminations ciblées de la semaine passée. Daniel Habert est au micro, bien sûr, de Lucie Gilson.
Bonjour Daniel Habert.
Bonjour chers amis.
Comme chaque semaine, nous allons décrypter avec vous une séquence de la géopolitique mondiale et plus particulièrement la géopolitique du Moyen-Orient. Actualité assez chargée aujourd'hui puisque nous allons parler des éliminations ciblées des derniers jours. Alors pour commencer, quelles pourraient être les retombées géopolitiques de ces éliminations qui sont les trois ennemis d'Israël, Ismaël Haniyeh, Fouad Chouker, numéro 2 du Hezbollah et Mohamed Def? Cela rebat-il les cartes du conflit?
Oui, alors avant d'avoir les conséquences, il faut avoir les motivations. Pourquoi est-ce qu'Israël fait ça? Et je pense que c'est le plus important, c'est d'essayer de comprendre que la décision d'élimination, c'est une décision stratégique. Parce que tout le monde sait que ça sert à rien, sur le plan opérationnel, d'éliminer des chefs militaires, parce qu'on en retrouve tout de suite derrière, des pires encore. Donc ça change pas le rapport de force et ça change rien sur le terrain. Par contre, ça donne un signal. Et le signal ici, et ça c'est vraiment la chose la plus importante à dire ce matin, c'est que c'est un signal de la volonté d'Israël d'échapper au piège que lui tend l'Iran, en fait depuis le 7 octobre, qui est d'entraîner Israël dans une guerre longue. Ça devient non plus une opération militaire uniquement à Gaza. C'est dès le 8 octobre, le Hezbollah envoyait des missiles. Les Houthis ont bloqué la mer Rouge. Les milices pro-iraniennes en Syrie, en Irak et en Judée-Samarie sont actives. Donc on voit bien que c'est une guerre qui est volontairement limitée dans ses effets, parce qu'ils cherchent justement à éviter des ripostes trop fortes d'Israël. C'est une guerre d'usure. Donc il faut sortir d'une guerre d'usure parce qu'Israël peut pas se permettre des guerres longues. Ça, c'est l'essentiel. Si on comprend pas ça, on comprend pas cette initiative. Donc cet effet de ciblage, c'est aussi un effet dissuasif. C'est montrer aux ennemis qu'on est capable d'eux. C'est à chaque fois le cas, mais ils oublient. En tout cas, là, ils n'ont pas oublié, parce que le simple fait qu'aujourd'hui l'Iran prenne son temps avant de riposter, la riposte viendra probablement du Hezbollah, pas de l'Iran lui-même. C'est pour ça que les chancelleries demandent à leurs ressortissants de quitter le Liban. L'objectif, ce sera pour Israël de repousser le Hezbollah au-delà du fleuve Litani, c'est-à-dire 10 kilomètres au nord de la frontière, pour que les Israéliens qui vivent au nord reviennent dans leur foyer. C'est ça l'objectif. Et donc voilà un petit peu le calcul stratégique d'Israël par rapport à ces humiliations. C'est ça c'est le plus important.
Est-ce qu'Israël a bien mesuré les risques de ces éliminations?
Alors évidemment, on les mesure, mais on n'est jamais à l'abri de dérapages. Oui, il les a mesurés. Parce que, au fond, la première chose qu'est arrivée à Israël le 7 octobre, c'est une perte de crédibilité. C'est montrer sa vulnérabilité. Donc, il faut la rétablir. Et ça la rétablit assez bien. La deuxième chose, c'est que seul Israël peut pas faire face à tout le monde, et il faut donc impliquer les Américains. Et donc, on voit que les Américains ont compris ce qui se passe, puisqu'ils ont envoyé des forces aéronaval, ça rappelle le lendemain du 7 octobre où Biden avait envoyé des porte-avions. Là, on en envoie d'autres et très renforcés, avec des escadrons d'avions et puis des missiles, évidemment. Tout ça, c'est pour dissuader évidemment le Hezbollah de pas frapper trop fort. C'est aussi de dissuader, c'était déjà vrai au lendemain du 7 octobre, dissuader Israël d'aller trop loin, parce qu'évidemment Israël brûle de détruire le Hezbollah comme ils ont détruit le Hamas. Donc les Américains sont obligés d'intervenir, ça c'est l'habileté. Et le terrain avait été préparé, et là on comprend le sens de la visite de Bibi Netanyahou à Washington le 24 juillet. Vous vous souvenez du discours, hein, c'était l'Iran. L'Iran est notre ennemi commun. Et donc c'est facile aujourd'hui pour Biden de comprendre le message, parce que d'abord il est plus candidat, donc il peut se permettre sans danger d'impliquer les États-Unis. en évitant une implication trop forte, mais en montrant qu'on est en soutien. Kamala Harris, elle, va jouer la partition contraire. Non, il faut pas aller trop loin, les droits de l'homme, les pauvres Palestiniens, les pauvres Arabes, les pauvres ceci, parce qu'elle est en campagne. Et qu'elle doit aussi convaincre l'aile gauche du Parti démocrate de voter pour elle. Mais Biden, lui, est en totale liberté. Et comme les militaires américains sont partants pour faire de la dissuasion forte face à l'Iran, je pense que l'idée du calcul d'Israël, c'est d'établir cette dissuasion. Et j'espère que ça va fonctionner.
Et peut-être d'impliquer aussi son allié principal, les États-Unis, comme vous semblez le mentionner.
Oui, c'est ça l'idée essentielle. Donc, dans un premier temps, c'est peut-être répliquer ce qui s'est passé le 14 avril. Hein. Ça avait plutôt bien fonctionné pour tout le monde. Donc, il est probable qu'on va vers un scénario similaire. Mais après, c'est après qu'il faut que les Américains et Israël profitent de cette nouvelle dynamique pour accélérer la mise en place de ce qui est absolument nécessaire, c'est une force globale de dissuasion face à l'Iran, et donc il faut appliquer les Arabes sunnites. Or, les Arabes sunnites voient dans les menaces iraniennes actuelles une menace directe pour eux. C'est les mêmes ennemis, c'est les Houthis, c'est les islamistes des frères musulmans, c'est tout ce que haïssent les Arabes sunnites. Donc je pense qu'il y a une opportunité pour les Américains et Israël d'accélérer le processus d'accord, hein, des accords d'Abraham, à condition peut-être d'inclure une perspective pour la question palestinienne, parce qu'elle a quand même été remise au centre du jeu, même si c'est pas la priorité, elle est là. Et en particulier, ce qu'on appelle la rue arabe, les opinions publiques, y compris celles d'Arabie Saoudite et d'Égypte, sont pour la défense de la cause palestinienne. Donc il faut donner une perspective, et donc il faut une double négociation avec les Arabes sunnites et Israël, et inclure la question palestinienne pour permettre justement à l'Arabie saoudite, par exemple, de signer un traité de paix avec Israël. Et tout ça veut dire qu'on va passer ensuite, on l'espère, à une phase plutôt de grande diplomatie qui vont impliquer les grandes puissances, y compris la Chine, qui a été très active ces derniers temps sur le plan purement diplomatique et qui profite de tous les vides et toutes les erreurs américaines. Donc il ne faut pas en commettre. Et il faut peut-être même essayer d'impliquer la Chine dans une solution pacifique. Je crois qu'elle y est prête. Et donc, voilà, on pourrait terminer cette conversation de ce lundi par une note un peu optimiste, si la diplomatie peut reprendre ses droits après cet épisode très chaud.
Alors, je voudrais, ma dernière question, je voudrais finir sur justement ce rôle de la Chine. Est-ce qu'elle protège ses intérêts parce qu'elle a été potentiellement assez silencieuse ces derniers mois sur ce conflit et tout d'un coup, la voilà sur le devant de la scène de nouveau. Est-ce que c'est certains intérêts qu'elle protège? Comment ça se
Oui,
fait?
bon, elle protège essentiellement l'approvisionnement pétrole. Ses intérêts sont pas directement menacés parce que personne n'a envie de le faire. La Chine peut encore rester prudente, elle est prudente, mais c'est l'intérêt de tout le monde finalement de la faire entrer dans le jeu, parce qu'elle est une force, c'est assez paradoxal de dire, une force de paix, parce qu'elle a justement, elle a intérêt, comme vous le dites très très bien, de protéger ses intérêts économiques. C'est l'économie avant tout en Chine, hein, c'est le pétrole, c'est vendre ses produits. Donc ça, c'est totalement essentiel à un moment où la Chine d'ailleurs a des problèmes économiques qui ont focalisé le récent plénum du Parti communiste. Ils ont parlé que de ça, que d'économie. Donc oui, le Moyen-Orient est un rôle important dans l'économie chinoise. Donc c'est ça qu'elle doit protéger. Je pense qu'il y a matière à en parler plus longuement une prochaine fois si vous le souhaitez.
Eh bien oui, on n'y manquera pas. Eh bien, Daniel Havert, c'est déjà la fin de notre entretien. Merci encore une fois de nous avoir apporté votre éclairage et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.